VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Bion à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 2 août 2023. La CEDEAO a envoyé une délégation au Niger pour négocier avec les putschistes, tandis que les chefs des armées de la région sont réunis au Nigeria voisin. Le général Modi, une figure de la junte nigérienne, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de 72 heures à Bamako, au Mali. Les Nigériens sont descendus massivement dans la rue pour protester contre la hausse des prix du carburant et l'augmentation du coût de la vie.
Le salaire minimum garanti expirera l'année prochaine et les travailleurs ne peuvent pas supporter ces difficultés jusqu'à l'année prochaine.
Reportage de notre correspondant Abuja à suivre dans la partie magazine. Des militaires éthiopiens affrontent des milices dans la région de l'Amara. Des blessés sont signalés. Le pape s'engage à poursuivre la réforme de l'Église au début de sa visite au Portugal dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Une délégation de la CEDEAO est à Niamey, au Niger, pour tenter de négocier avec les putschistes du 26 juillet dernier, qui gardent toujours l'ancien président Mohamed Bazoum. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon des sources proches du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey en début d'après-midi. Conduite par l'ancien président du Nigeria, le général Aboubakar Abdoussalami, elle est composée, entre autres, du président de la commission de la CEDEAO et de l'émir de Sokoto. Sur leur agenda, des rencontres, dont celle prévue avec le général Abdrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le général Tiani, qui a continué de recevoir les différents acteurs de la vie nationale, aujourd'hui, il s'est entretenu, entre autres, avec des représentants des organisations de la société civile. Ce soir, en principe, il s'adressera à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, demain 3 août. Une adresse qui sera très suivie au vu du contexte. Aujourd'hui, les nouvelles autorités nigériennes ont eu leur premier contact physique à l'extérieur avec le déplacement à Bamako de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, conduit par le général du corps d'armée Salifou Modi. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Justement, cette délégation de militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum, conduite par le général Salifou Modi, est à Bamako pour rencontrer les autorités de la transition malienne. L'ultimatum de la CEDEAO et le communiqué conjoint du Mali et du Burkina en soutien à l'armée nigérienne seront certainement au programme des échanges. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous en dit plus.
À quelques jours de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO qui consiste à rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République, y compris par une intervention militaire si nécessaire, le général Tiani, désigné pour diriger la transition, et ses hommes multiplient les rencontres. À Bamako ce matin, c'est une délégation conduite par son numéro 2, le général Salifou Modi, qui devait rencontrer les autorités de la transition malienne. Cette rencontre aura été certainement mise à profit pour évoquer le soutien du Mali et du Burkina qui, dans un communiqué conjoint le lundi dernier, se disent prêts à combattre aux côtés des forces armées nigériennes en cas d'intervention militaire. Au même moment où cette délégation est à Bamako, Niamey accueille une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Abdulsalami Aboubakar. Entre-temps, à Abuja s'ouvre 3 jours de réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. La Russie met en garde contre toute intervention militaire au Niger. Selon certains analystes, toutes les pistes sont actuellement explorées afin d'éviter celle d'une intervention militaire qui pourrait fragiliser davantage un Sahel en proie au terrorisme depuis déjà trop longtemps. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique. Bamako.
Une intervention militaire au Niger serait la dernière option envisagée par le bloc ouest africain pour restaurer l'ordre constitutionnel, mais il faut se préparer à cette éventualité, a indiqué aujourd'hui l'un des responsables de la CEDEAO à l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major ouest africain à Abuja. L'option militaire est la toute dernière option sur la table, le dernier recours, mais nous devons nous préparer à cette éventualité, a déclaré le commissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest chargé des affaires politiques et de la sécurité Abdel Fattah Moussa. Le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, en ligne avec des sanctions décidées par les voisins ouest-africains du Niger, déstabilisés par un putsch. Le Niger, qui dépend énergétiquement à 70% du Nigeria, subit des sanctions internationales depuis que des putschistes ont renversé le président élu Mohamed Bazoum il y a une semaine. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a salué aujourd'hui, dans un communiqué, l'ancien chef de l'État devenu son opposant, Henri Konan Bédié, un grand homme d'État mort à la veille à 89 ans à Abidjan. Il a décrété donc un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août, pendant lesquels le drapeau sera en berne sur tout le territoire, selon un autre communiqué. Laurent Gbagbo, également ancien président et figure historique de l'opposition, a lui salué un acteur majeur de la politique ivoirienne, annonçant la suspension jusqu'à vendredi de toutes les activités de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le Sénégal a suspendu l'accès à l'application de vidéo TikTok jusqu'à nouvel ordre, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Communication, quelques jours après avoir restreint l'utilisation de l'Internet mobile en raison des manifestations de l'opposition. Ces restrictions font suite à l'inculpation du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, pour appel à l'insurrection, complot contre l'autorité de l'État et association de malfaiteurs, ainsi que d'autres chefs d'accusation. L'armée éthiopienne a affronté des combattants d'une milice de la région d'Amara. Selon des sources locales, il y aurait plus d'une dizaine de blessés. Claire Morin-Gibou.
Des combattants Fano et les forces de défense nationale éthiopiennes se sont affrontés près de Debre Tabor mardi et mercredi, ont témoigné un médecin et un policier à l'agence Reuters. Tous deux ont demandé à garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Ni le porte-parole du gouvernement fédéral éthiopien, ni l'administration régionale d'Amara n'ont fait de commentaires. Le médecin a fait état de 13 blessés reçus à l'hôpital, dont 3 dans un état grave. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui aux abords de la ville, a-t-il dit, ajoutant que la route de Debre Tabor était fermée. Ceux qui ont été blessés arrivent à pied, a-t-il expliqué. Une source diplomatique s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que des combats ont éclaté il y a plusieurs jours lorsque l'armée a lancé une opération pour chasser les combattants de Fano, de Kobo et de ses environs. Les miliciens Fano se sont emparés alors de la ville sainte de Lalibela qui abrite un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hier, le porte-parole de l'armée a dit que des sanctions contre les Fano seraient prises pour trouble à la paix dans le pays.
Le conflit au Soudan du Sud est un avertissement pour son voisin du Soudan du Sud, a estimé aujourd'hui le chef de la mission de l'ONU dans le pays, appelant le gouvernement de Juba à agir rapidement pour consolider la paix et permettre la tenue d'élections en décembre 2024. Ces élections, les premières dans le plus jeune pays du monde qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, étaient initialement prévues en février 2023.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poussé sur un fauteuil roulant, le pape François est arrivé ce mercredi à Lisbonne pour participer avec 1 million de jeunes croyants de tous les continents aux Journées mondiales de la jeunesse. Il s'agit d'un événement majeur au sein d'une église catholique en pleine réflexion sur son avenir. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous sommes la jeunesse du pape, scandé des centaines de fidèles qui l'attendaient devant le palais présidentiel de Belém, en tapant sur des tambours et en agitant des drapeaux aux couleurs de leur pays. On l'aime beaucoup car il nous transmet l'amour que Dieu a pour nous. Il est plus proche de nous, a témoigné un pèlerin de 26 ans venu du Guatemala. Avant le premier rendez-vous avec les jeunes demain jeudi, la journée de ce mercredi est consacrée aux autorités et aux clergés du pays où 80% des 10 millions d'habitants se définissent comme catholiques. Les organisateurs attendent des millions de pèlerins de presque tous les pays du monde pour cette semaine de rendez-vous festif, culturel et spirituel qui s'est ouverte hier mardi par une messe au sommet d'une colline surplombant le centre-ville et l'embouchure du Tage. Après Rio de Janeiro au Brésil en 2013, Cracovie en Pologne en 2016 et Panama en 2019, il s'agit des 4e journées mondiales de la jeunesse pour François, 86 ans, dont la santé apparaît de plus en plus fragile.
La Grande-Bretagne a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouvel ambassadeur à Moscou, Nigel Cassey, dans un contexte de tension entre le Royaume-Uni et la Russie, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine. Actuellement représentant du premier ministre britannique Rishi Sunak pour l'Afghanistan, Cassey, 54 ans, succède à Deborah Brunette. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Ouganda, le gouvernement a réduit de 50% le tarif de l'Internet public qui est passé de 70 à 35 dollars. L'annonce a été faite par le ministre d'Éthique, Chris Bariomunsi, lors d'un point de presse avec les autorités nationales des technologies de l'information hier. En mars dernier, l'Ouganda a reçu 500 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre du projet Vision 2040 qui prévoit de connecter les zones rurales et difficiles d'accès. La quatrième édition de la foire Made in Togo a repris après 3 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19. La rencontre qui rassemble plus de 70 exposants à Lomé sera marquée par des conférences, débats, ateliers et événements culturels sur des thèmes tels que la consommation des produits locaux, le développement économique durable et le soutien aux PME. Et si vous êtes actuellement à Lomé, profitez-en, la foire se déroule jusqu'à dimanche. L'Organisation internationale des bois tropicaux propose des bourses pour une formation dans les domaines de la foresterie et des industries du bois. La formation comprendra des programmes sur l'apport des forêts tropicales aux économies, l'utilisation durable de la biodiversité et l'optimisation de l'information sur les forêts. La date limite des candidatures est fixée au 1er septembre et les activités devraient commencer au plus tard le 1er janvier.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Afrique compte son deuxième représentant en huitième de finale du mondial féminin.
Oui, après le Nigeria, l'Afrique du Sud a arraché son ticket pour les huitièmes de finale après sa victoire 3-2 face à l'Italie, quart de finaliste de l'édition 2019. Menée 1-0 après seulement 11 minutes de jeu, les Sud-Africaines ont marqué par 2 fois avant de concéder un second but synonyme d'élimination. Mais Thembi Ngatlana a offert à son équipe la victoire dans le temps additionnel en profitant d'une énième erreur défensive italienne. Les Bayana disputeront donc pour la première fois de leur histoire les huitièmes. Les Sud-Africaines, deuxièmes du groupe D avec 4 points, seront opposées aux Néerlandaises, premières du groupe E, après leur victoire 2-0 contre les Argentines. La Jamaïque et l'Afrique du Sud ont donc obtenu leur qualification dans le groupe D, aux dépens de 2 cadors, le Brésil et l'Italie. De leur côté, la France et la Suède ont décroché leur billet pour les huitièmes. Les Bleus, en bonne posture avant d'affronter le Panama, ont assuré l'essentiel avec une victoire 6-3 lors d'un match fou. Les Suédoises, troisièmes du dernier mondial, se sont aussi qualifiées en prenant la première place du groupe G grâce à leur victoire contre l'Argentine, 2-0. Les Suédoises, troisièmes au classement FIFA, se préparent à un choc contre les vainqueurs des 2 dernières éditions, les États-Unis.
Gianluigi Buffon a fait ses adieux au football à 45 ans.
C'est fini les amis, vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné, on l'a fait ensemble, a écrit l'ancien gardien de but emblématique de l'Italie et de la Juventus Turin sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une vidéo retraçant sa carrière. Buffon, revenu il y a 2 ans à Parme, le club de ses débuts, désormais en 2e division italienne, est le joueur ayant disputé le plus de matchs dans le championnat d'Italie, c'est-à-dire 657. Il a gagné la Coupe de l'UEFA, désormais Ligue Europa, en 1999. Avec la Juventus, il a survolé la Serie A avec 10 titres de champion, tout en échouant à conquérir la Ligue des champions, défait en finale à 3 reprises en 2003, 2015 et 2017. Il a aussi décroché la Ligue 1 avec Paris Saint-Germain en 2019. Mais son plus grand fait d'armes demeurera la victoire de l'Italie lors de la Coupe du Monde 2006 sous les ordres de Marcello Lippi.
Basketball à présent avec les nouvelles de l'Afro-Basket Dame qui se déroule à Kigali, au Rwanda.
Oui, en quart de finale aujourd'hui, le Mali a écrasé la Guinée 96-40. En demi-finale demain, les Maliennes vont affronter les Sénégalaises qui ont disposé des Camerounaises 80-77. Cette 28e édition de l'Afro-Basket Dames a commencé le 28 juillet avec 12 équipes au départ. La finale aura lieu le 5 août à la BK Arena dans la capitale rwandaise.
Page des sports VO Afrique, signé Bagasikura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'un des géants de la politique, Henri Konan Bédié est décédé mardi des suites d'un malaise à Abidjan à l'âge de 89 ans. Son parti politique, le PDCI, et de nombreux Ivoiriens sont inconsolables. Certains se sont exprimés au micro d'Aïcha Diarra depuis Boaké.
Le sphinx de Daoukro, l'un des gros dinosaures de la politique ivoirienne, s'en est allé pour toujours après un malaise à Daoukro, d'où il a été transporté pour la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. Une nouvelle qui ne pouvait rester longtemps secrète comme le veut la tradition Akan au décès d'un chef, un nana. Nana Kofi Ayadeu est chef de village de Prikro dans la commune de Brobo.
Vraiment, c'est la consternation totale parce que le président Bédié a été chef d'État de ce pays. Vraiment, les mots me manquent même pour exprimer ce que je ressens. On a perdu un grand homme. Et en tant que chef baoulé, c'est le pays baoulé tout entier qui est affecté, y compris toute la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle nous a attristés. Je suis encore sous le choc. Je dis Yako à toute la Côte d'Ivoire, à sa famille biologique. Nous sommes tous dépassés. On n'a pas appris qu'il était malade et la mort a été subite. Je sais que tous les Ivoiriens sont touchés dans leur ensemble. Nous sommes sous le choc. Yako à tous et que son âme repose en paix.
Face à la mort, l'adversité politique s'oublie. Siluepe Gabila est le secrétaire départemental du RHDP de Boaké-Gonfréville.
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de l'ancien président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA. Et donc c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil, la Côte d'Ivoire plurielle qui est en deuil. C'est une grosse perte donc, pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment m'incliner devant sa mémoire et présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à sa famille politique, mais à l'ensemble donc, des Ivoiriens. Souhaiter que le Seigneur ait pitié de son âme et qu'il le reçoive dans son paradis céleste.
Dans les rues de Boaké, Kofi Michel et Soro Tchema sont sans voix face au décès de l'ancien président ivoirien.
Bon, je crois que c'est un choc d'abord pour tout le monde, pour nous ceux qui l'avons connu et côtoyé. Ensuite, en ce qui concerne son parti, je pense que c'est une grande perte parce qu'il était l'homme a tout fait pour le parti, il était au devant de beaucoup de décisions. Bon, je crois qu'on s'en remet à la volonté de Dieu et que son âme se repose en paix.
Aujourd'hui, il nous quitte. On ne peut pas faire autrement, c'est la volonté de Dieu. Je pense que non, il a servi la Côte d'Ivoire, il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé à lui. Et je pense qu'on doit que souhaiter Yako à toute la famille politique et sa famille biologique.
Fidèle à Félix Oufouette Boigny, Henri Konan Bédié, qui a passé plus de 65 ans aux côtés de son épouse Henriette Kwazan Bomo Konan Bédié, laisse derrière lui un PDCI sans leader véritable connu. Aïcha Diarra, à Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, des milliers de travailleurs sont descendus dans les rues d'Abuja et dans les autres états du pays à l'appel de la NLC, la puissante centrale syndicale, pour protester contre la vie chère et pour ce que les syndicats appellent les politiques anti-masse du gouvernement du président Bola Tinubu. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
C'était plusieurs centaines de manifestants, tous des membres de la puissante centrale syndicale du pays, à descendre dans les rues de la capitale fédérale, Abuja. Les syndicalistes nigériens protestent contre les prix élevés du carburant et des denrées alimentaires, une inflation élevée causée par la suppression de la subvention au carburant. Les négociations entre les syndicats et le gouvernement fédéral n'ont pas encore abouti à un accord. Benjamin Anthony, président du syndicat des sociétés publiques.
The minimum wage we expect next year.
Le salaire minimum garanti expirera l'année prochaine et les travailleurs ne peuvent pas supporter ces difficultés jusqu'à l'année prochaine car le prix de tout sur le marché a augmenté. Les travailleurs ne peuvent donc pas attendre. Nous voulons donc une revalorisation salariale. Deuxièmement, des palliatifs pour le peuple nigérian.
Les syndicats exigent un nouveau salaire minimum et jugent insuffisantes les mesures radicales annoncées par le président Bola Tinubu pour atténuer les effets de la suppression des subventions au carburant. Jimmy Innocent et Alumine sont venus participer à la manifestation.
La situation m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire après tout. Le salaire ne mérite même pas qu'on en parle. Combien vaut le salaire pour en parler? Maintenant, depuis la fin de cette subvention, je ne peux pas conduire ma voiture parce que je ne peux me permettre d'acheter du carburant. Je ne peux pas. Je pense même, et j'ai dit à mes enfants de m'acheter un vélo pour que je puisse faire le chemin de Koubois jusqu'à mon bureau.
Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cause des transports. Ils ne peuvent pas venir en ville tous les jours. Peut-être que certains d'entre eux ont un salaire de 30 ou 40 000 naira. Et votre transport, si vous habitiez en dehors d'Abuja, juste par exemple Mararaba, jusqu'au centre-ville, vous payez 1 000 naira. Donc pour aller et retour, c'est 2 000 naira par jour.
Certains des manifestants à Abuja portaient des pancartes avec des slogans comme « Nous protestons contre la suppression de la subvention et la souffrance du peuple nigérian » ou encore « Tinubu tue la corruption, pas la subvention au carburant ». BRICS aussi a fait le déplacement.
Les travailleurs ne peuvent plus supporter de payer des prix élevés. Les prix ont augmenté de 600 à 700% dans divers domaines et vous savez que la plupart de la main-d'œuvre vit en dehors du centre-ville. C'est donc une situation très grave et les effets multiplicateurs sur d'autres commodités ont également rendu le niveau de vie des travailleurs insupportable.
La manifestation d'Abuja s'est déroulée sous une forte présence des agents de sécurité pour éviter tout débordement. Elle se poursuivra pendant une semaine pour mettre la pression sur les autorités fédérales. Dans un discours télévisé à la Nation lundi, le président Tinubu a appelé à la patience vis-à-vis de la mise en œuvre de ces réformes qu'il considère primordiales pour son administration. Un appel ignoré par les manifestants. Le gouvernement fédéral défend la suppression de la subvention au carburant comme une mesure qui a permis de mettre fin au déblocage des milliards de dollars des caisses de l'État chaque année au nom de la subvention au carburant. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Le sommet des YALI, Young African Leaders Initiative, l'initiative des jeunes leaders africains, prend fin ce mercredi ici à Washington DC. Ce sommet de 3 jours couronne 6 semaines passées par plus de 700 jeunes leaders africains dans des universités et organisations publiques et privées américaines pour des sessions de formation. Parmi eux, Jamira Zorom, coordonnatrice de l'initiative féminine pour le développement humanitaire et la paix, une ONG qui intervient dans le centre nord du Burkina, minée par le terrorisme. Elle travaille aussi pour le compte de la MINUSMA à Tombouctou, au Mali. Elle en parle avec Yacouba Ouedraogo.
Au Burkina, en tant que jeune leader, j'ai commencé à travailler avec les jeunes, très jeunes, avec la Croix-Rouge. J'ai travaillé aussi avec d'autres organisations qui travaillent sur le volontariat. Donc, grosso modo, je suis très, très, très engagée en tant que jeune dans mon pays. Et là, j'ai décidé en 2019, avec des amis, de créer une association, une ONG, pour travailler davantage sur les questions de paix et sécurité, parce que je voyais à quel point est-ce que mon pays souffrait de l'insécurité. Et donc, nous avons créé l'association. Nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les jeunes, parce que les jeunes sont un aspect très, très, très important.
Vous travaillez au Burkina Faso, exactement, dans des zones quand même à risque.
Exactement.
Le centre nord.
Exactement.
Et donc, comment ça se passe sur le terrain?
Sur le terrain, il faut dire que c'est la passion qui nous guide, parce que les risques, il y en a partout. Mais quand tu sais que tu es la personne qui doit apporter de l'espoir à des gens qui sont profondément vulnérables et qui n'ont plus foi en l'avenir d'un pays, il faut faire quelque chose. En tant que jeune leader...
Comment vous définissez l'état actuel de la sécurité dans votre pays, le Burkina Faso, à travers ce que vous faites?
Je ne vais pas m'aventurer sur une évaluation institutionnelle, sûrement pas. Mais en termes de sécurité, dans les zones à sécurité précaire, l'engagement, l'engouement et la détermination des populations sont en train de grandir. Parce qu'ils commencent à comprendre à quel point est-ce que c'est la contribution de chacun qui pourra nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Et j'étais très contente d'entendre un des panélistes partager en fait la philosophie américaine de la contribution. one people. Ça veut dire que ça vient de chacun. Et c'est à partir de là qu'on peut réussir.
On sait également que vous travaillez pour le compte de la MINUSMA.
Tout à fait.
À Tombouctou.
Tout à fait.
Au Mali.
Tout à fait.
Une zone encore un peu dangereuse.
Exact.
Est-ce que vous et les zones à risque, finalement, il y a un amour?
Pas un amour en tant que tel, mais c'est juste que je pense profondément et véritablement qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent à prendre des risques pour sauver d'autres personnes. Ces zones ne peuvent pas être abandonnées, on ne peut pas les laisser. Parce que si on les laisse, la gangrène va continuer et nous allons finir par disparaître.
Quel lien vous faites entre votre travail sur le terrain à Tombouctou pour le compte de la MINUSMA, votre travail sur le terrain au Burkina Faso, dans les zones à risque, et les Yali qui vous amènent aux États-Unis?
La paix a une définition tellement transversale que je me suis dit que c'était très important de venir aux États-Unis, de rencontrer toute l'Afrique en une fois, de partager mon expérience, de prendre leur expérience, de partager ma philosophie et de prendre la philosophie des pays qui n'ont pas connu de guerre, des pays qui célèbrent la paix depuis des années, et de les ramener là où je suis pour les implémenter dans mon travail.
Jamira Zorom, coordinatrice de l'Initiative féminine pour le développement humanitaire et la paix. L'ancien président américain Donald Trump continue d'étonner, devançant les autres candidats républicains à l'investiture du parti pour la présidentielle malgré de multiples actions judiciaires contre lui, avec des mots de soutien de certains de ses rivaux. M. Trump a de nouveau été inculpé mardi pour ses tentatives d'annuler les élections de 2020. Anita Powell de la VOA se penche sur le parcours sans précédent de l'ancien président. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Donald Trump. Qu'il soit aimé ou détesté, pour de nombreux Américains, il semble qu'il n'y ait pas d'entre-deux. L'ancien président a retourné ses graves inculpations fédérales à son avantage politique, affirmant que les accusations étaient motivées politiquement.
Ce sont des actes d'accusation ridicules. Et tout ce qu'ils font, c'est espérer une ingérence massive dans les élections. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nuire au principal candidat.
Chaque nouvelle inculpation lui apporte un coup de pouce dans les sondages, lui donnant une avance à deux chiffres dans la course républicaine à l'investiture. Et étonnamment, les très nombreux challengers présidentiels de Trump, y compris son challenger le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, disent qu'ils sont d'accord avec lui, comme le font certains républicains éminents du Congrès. Par exemple, le président de la Chambre basse, Kevin McCarthy.
Ils s'en prennent à quiconque se présente contre le président. Il semble que si vous montez dans les sondages, vous êtes plus susceptible d'être inculpé.
D'autres dirigent leur colère contre le procureur spécial, Jack Smith, qui a mené l'enquête ayant produit l'acte d'accusation de mardi sur les tentatives de Trump de conserver le pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Marjorie Taylor Greene, représentante de la Géorgie au Congrès.
Ce que fait Jack Smith, c'est qu'il arme le gouvernement et il arme le ministère de la Justice contre le président Trump avec un mensonge total sur le président Trump et le 6 janvier.
Ce soutien, dit Jérémy Souris, professeur d'histoire à l'Université du Texas, peut être dans l'intérêt personnel du candidat. La VOA l'a joint à Austin, Texas, via Zoom.
Le soutien que Trump reçoit d'autres candidats républicains et d'autres responsables républicains vient du fait que le système des primaires républicaines est un vrai chantier. C'est un système qui donne le droit à un petit groupe de républicains de se présenter à ces primaires. Parfois, ils sont dans des caucus. Parfois, ils votent pour des primaires. Ils se présentent et ils ne représentent pas le parti. Mais ils fournissent les votes clés dans les primaires qui déterminent qui sera le candidat du parti.
La Maison-Blanche a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucun rôle dans les déboires juridiques de Trump. Bien que cette situation ne soit peut-être pas la faute du président Biden, c'est un problème. Jérémy Souris affirme que le président doit faire trois choses. Premièrement, protéger l'accès des gens au vote. Deuxièmement, s'assurer que le système de justice peut faire son travail. Troisièmement, dit-il, il a un peu plus d'un an pour le faire avant que l'Amérique ne vote.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.